Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur d'être différent des autres? Hein? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur d'être différent des autres, de craindre d'être différent des gens qui vous entourent? En 1951, un psychologue du nom de Salomon H., un psychologue américain, a conduit une expérience stupéfiante dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il a réuni un groupe de jeunes adultes et il leur a proposé de participer à un test de vision. Et donc, pour ce test, il fait asseoir six personnes, six participants à une table. Parmi les six personnes, cinq sont des complices du psychologue. Et donc, le psychologue va présenter à son groupe des affiches avec un trait de référence d'un côté, des petites affichettes, un trait de référence d'un côté, et ensuite trois traits de longueur différente de l'autre côté, dont un trait qui fait la même longueur que le trait de référence. Jusqu'ici, ça va? Test de vision. Le psychologue demande ensuite à chaque personne du groupe de désigner successivement, l'un après l'autre, le trait qui est de la même longueur que le trait de référence. Et donc c'est facile, hein? Au début, tout se passe bien, tout le monde désigne le bon trait. Mais ensuite, les complices du psychologue, de manière unanime, vont parfois désigner exprès un des mauvais traits, alors que la bonne réponse est parfaitement évidente. Et l'expérience a montré, en définitive, que 37% des sujets qui avaient été piégés suivaient le choix du groupe dans ses mauvaises réponses. D'accord? 37% des sujets piégés suivaient le choix du groupe dans ses mauvaises réponses. Et c'est malgré le fait que la réponse était évidente, la bonne réponse. Ces sujets, après la fin de l'expérience, ont été interviewés pour pouvoir ensuite tirer des conclusions, bien sûr, de cette expérience, qui en fait n'était pas un test de vision, mais qui était plutôt une expérience de psychologie. Et ces sujets ont donné deux raisons pour leur comportement. Alors, face à l'unanimité des autres participants, certains sujets s'étaient persuadés eux-mêmes que leur propre perception était fausse. Comprenez? Que leur propre perception visuelle était fausse. Et d'autres ont avoué qu'ils savaient qu'ils donnaient une mauvaise réponse, mais qu'ils ne voulaient pas froisser le consensus. Et donc, on appelle ça le pouvoir du conformisme. Et donc, je vous repose cette question. Est-ce qu'à votre tour, il vous arrive d'avoir peur d'être différent des autres, de craindre de froisser le consensus, de mettre en doute ce que vous savez être vrai en raison de l'unanimité des autres, ou de l'unanimité apparente des autres? Est-ce que vous redoutez le jugement des personnes qui vous entourent? Bien sûr que oui, et moi le premier, et rassurez-vous, c'est parfaitement normal. C'est pratiquement inscrit dans notre ADN en fait. En même temps, et ça c'est pour la mauvaise nouvelle, ça constitue pour chacun de nous un certain handicap en fait. Parce que parfois, ce fameux pouvoir du conformisme va nous pousser à douter de ce que nous savons être vrai, n'est-ce pas? Et parfois va nous pousser à faire de mauvais choix, parfois des choix dévastateurs. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ça, c'est pas une fatalité. Heureusement, c'est pas une fatalité. Alors, le texte qu'on va lire, chapitre 25, la dernière partie du chapitre, enfin la deuxième partie du chapitre, c'est un texte qui s'attache à une personne du nom de Festus, c'est un gouverneur romain de l'époque, enfin du premier siècle, de l'époque de Jésus et des apôtres. Et si vous n'étiez pas là ces derniers dimanches, enfin au cours du mois d'août, vous ne savez pas qu'on est en train de faire une petite série pendant cet été, avant de reprendre le cours normal de nos prédications à la rentrée, la semaine prochaine, donc, une petite série sur ce qui s'est passé quand l'apôtre Paul s'est rendu dans une ville, enfin était présent en tout cas dans une ville du nom de Césarée. Et nous avons vu déjà trois passages consacrés à cet épisode. Nous avons parlé dans le premier message d'une foi sans illusion. Ensuite, on a parlé d'une foi, non pardon, premier message, une foi sans complexe, ensuite une foi sans arrière-pensée, la dernière fois une foi sans illusion. Aujourd'hui, on va parler de la foi sans faux-semblant. Tout cela par rapport à l'exemple, ou plutôt le mauvais exemple, de cette personne qui s'appelle Festus, qui est gouverneur, et que le texte va nous présenter comme un mauvais exemple, et j'espère que vous en serez convaincus avant la fin de ce message. La leçon qu'on pourrait retenir cet après-midi, c'est la suivante. Et j'espère que vous allez voir pourquoi on peut affirmer cela avec beaucoup de force. Écoutez bien. Le chrétien véritable est libre de la tyrannie du regard d'autrui. Le chrétien véritable est libre de la tyrannie du regard d'autrui, c'est-à-dire du regard des autres. D'accord ? Le texte va nous parler d'abord d'un symptôme, puis d'une cause, et enfin d'un remède. Alors lisons le texte, chapitre 25, versets 13 à 27. L'apôtre Paul est donc à Césarée, il est prisonnier des Romains. Les Romains l'ont fait prisonnier en fait pour le protéger en quelque sorte de la fureur des responsables juifs de son époque qui veulent le mettre à mort. Et la dernière fois on a vu que Paul a comparu devant ce gouverneur du nom de Festus. Il avait auparavant comparu devant son prédécesseur qui s'appelait Félix, donc maintenant son successeur Festus. Et puis à la fin, devant les tergiversations de Festus qui ne sait pas trop quoi faire de Paul, finalement Paul, il en appelle à l'empereur lui-même, à César, donc il demande à comparaître devant l'empereur. Et c'est en fait un droit qu'ont les citoyens romains à cette époque d'en appeler à l'empereur. Et donc voici ce qui se passe juste après. Chapitre 25, verset 13. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi le cas de Paul et dit « Félix a laissé prisonnier un homme contre qui, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte pour demander sa condamnation. Je leur ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de livrer à la mort un homme avant que l'accusé soit confronté avec ses accusateurs et qu'il ait l'occasion de se défendre contre cette accusation. Ils sont alors venus ici et sans aucun délai, j'ai siégé le lendemain à mon tribunal et donné l'ordre d'amener cet homme. Ses accusateurs, s'étant présentés, n'ont mis à sa charge aucune des mauvaises actions dont je le soupçonnais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. Quant à moi, perplexe à propos d'un débat de cette sorte, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé là-dessus. Mais Paul a fait appel pour que sa cause soit réservée à la compétence de l'empereur. Et j'ai donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais moi aussi entendre cet homme. »« Demain, répondit-il, tu l'entendras. » Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent avec beaucoup d'apparat et entrèrent dans la salle d'audience avec les tribuns et les gens haut placés de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous présents avec nous, vous voyez cet homme, au sujet de qui toute la multitude des Juifs est intervenue auprès de moi, soit à Jérusalem, soit ici, en clamant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, j'ai compris qu'il n'avait rien commis qui soit digne de mort. Mais lui-même, en ayant appelé à l'empereur, j'ai jugé bon de le lui envoyer. Je n'ai rien de précis à écrire au souverain sur son compte, c'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin d'avoir, après l'interrogatoire, quelque chose à écrire. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer les motifs qu'il y a contre lui. » On va s'arrêter là pour la lecture de la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, je vais boire un petit coup, et ensuite on va prier. Prions. Seigneur, merci beaucoup pour la Bible, la Sainte Bible, ces textes que tu as inspirés pour notre instruction, pour notre édification dans la foi. Nous te prions de bien vouloir maintenant, par ton esprit, Seigneur, sanctifier la prédication de ta parole et la rendre efficace, afin que par son moyen, tu nous fasses retenir, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner et que tu l'appliques, Seigneur, à notre vie afin que nous en soyons transformés à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc le chrétien véritable est libre de la tyrannie du regard d'autrui. La première chose qui se passe dans le texte, c'est que la première chose qu'on pourrait remarquer, c'est que l'auteur est en train de nous raconter la manière dont le gouverneur Festus raconte à lui-même, à Agrippa, ce qui s'est passé quelques jours auparavant. Et ce qui s'est passé quelques jours auparavant, l'auteur du livre des Actes nous l'a déjà raconté. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il raconte deux fois la même chose? D'abord, il nous raconte ce qui se passe, et puis au chapitre suivant, il nous raconte de nouveau ce qui se passe, mais cette fois par la bouche, par l'intermédiaire du gouverneur Festus qui raconte ça à Agrippa. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il veut nous faire jouer au jeu des 7 différences. Vous connaissez le jeu des 7 différences ou des X différences. Vous avez deux dessins et vous devez les comparer pour repérer les différences. L'auteur veut mettre en contraste ces deux récits. Et il veut nous montrer à travers ces différences de quelle façon Festus, en fait, est en train de raconter ce qui s'est passé de telle sorte à soigner son image vis-à-vis des événements qui se sont passés quelques jours auparavant. On pourrait prendre plusieurs exemples, je ne vais pas les prendre maintenant, on n'a pas le temps, mais à l'occasion, comparer les versets 3 et 15. Verset 3, c'est le premier récit, verset 15, le second. Bon, on va prendre juste cet exemple, puisque vous avez l'air très intéressé. Les Juifs sollicitaient Festus et lui demandaient comme une faveur, verset 3, donc, de faire venir Paul à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Verset 15. Les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte pour demander sa condamnation. Mais pas du tout, ils ne demandaient pas la condamnation de Paul. Ils demandaient à ce que Paul soit emmené à Jérusalem pour le piéger sur le chemin et le tuer. Mais ça, Festus ne le savait pas. D'accord ? Il agrémente un peu le récit pour se donner bonne image. Et ainsi, autre exemple, verset 9. Festus qui voulait s'assurer, ça c'est le premier récit, le récit de l'auteur, Festus qui voulait s'assurer les bonnes grâces des Juifs, répondit à Paul, veux-tu monter à Jérusalem ? Verset 20, cette fois c'est Festus qui raconte. Quant à moi, perplexe à propos d'un débat de cette sorte, je lui ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem. Mais pas du tout, c'est pas parce qu'il était perplexe, c'est parce qu'il voulait s'assurer les bonnes grâces des Juifs. Vous voyez comment Festus tourne le récit à son avantage pour montrer qu'il était un bon gouverneur, qui faisait bien son travail, et pour se donner une bonne image devant les autres, devant Agrippa notamment, devant Agrippa et Bérénice. Et ensuite, il répétera un petit peu la manœuvre le lendemain, lorsque cette fois, tous les notables de la ville seront assemblés pour entendre Paul. Alors, est-ce que vous saviez qu'il existait des éclairages spéciaux pour les rayons de fruits et légumes dans les magasins? Je ne sais plus avec qui j'en parlais récemment. Il existe des éclairages spéciaux pour les rayons de fruits et légumes dans les magasins. Des éclairages qui font ressortir les couleurs pour que les fruits aient l'air bon, vous voyez? Parce que un légume qui n'a pas une bonne apparence, c'est un légume qui généralement n'est pas vendu. C'est un légume qui finit à la poubelle, c'est un légume qui n'a pas de raison d'être. C'est un légume qui n'a pas de dignité quelque part. Et vous voyez combien l'image, ça compte quand on est un légume. Et il faut soigner son image quand on est un légume. Et on voit que Festus aussi se soucie de son image. Il est un petit peu dans un rayon de supermarché. Et là, il y a Agrippa et Bérénice qui arrivent. Et en plus, tous les notables, les gens puissants et riches de la ville qui sont là. Ils veulent savoir ce qui se passe. Alors, il soigne son image, bien sûr. Ce que ces gens pensent de lui, ça compte pour Festus. Au point de modifier, d'agrémenter volontairement ou peut-être involontairement, peut-être inconsciemment. Au point en tout cas de modifier et d'agrémenter le récit des événements qui se sont déroulés seulement quelques jours auparavant. Et ça n'a pas échappé à Paul, ça n'a pas échappé à l'auteur du livre des Actes, qui donc nous fait jouer à ce petit jeu des différences entre les deux récits. Et il veut nous montrer, à ce moment-là de son récit, à quoi ça ressemble. Quelqu'un qui vit sous la tyrannie de l'impression qu'il donne ou qu'il veut donner à son entourage, à ses pairs, à ses notables, à ce roi, et à Bérénice, etc. Et est-ce que vous reconnaissez le même symptôme dans votre vie? À quel point l'opinion de vos collègues, de vos voisins, de vos camarades de classe compte-t-elle lorsque vous choisissez comment vous allez vous habiller le matin? Les jeunes qui sont à l'école, notamment. À quel point l'opinion de vos amis, vos copains compte-t-elle lorsque vous choisissez le t-shirt que vous allez porter pour aller au collège ou au lycée? À quel point l'opinion de vos collègues, de vos camarades, de vos voisins, des membres de votre famille, compte-t-elle dans le choix de la musique que vous écoutez, ou dans le choix des films que vous regardez, ou des séries que vous allez suivre? Et si leur opinion compte dans ces domaines, à quel point compte-t-elle aussi dans vos convictions politiques, ou vos convictions morales, ou vos convictions religieuses? Et je crains que nous tous, que nous soyons croyants ou non, en fait, nous avons cette tendance, on l'a vu, c'est celle des légumes, finalement, dans les supermarchés, cette tendance du légume à trouver notre satisfaction, notre paix, notre raison d'être, voire même notre dignité, dans le regard et dans l'opinion des autres. N'est-ce pas ? Nous souffrons tous de ce syndrome, le syndrome de Festus, si j'ose dire. Et pourquoi est-ce ainsi? Le texte nous en donne l'explication, il nous a parlé du symptôme, mais il nous parle aussi de la cause. L'auteur nous explique le contexte de ces événements. C'est pas pour rien que l'auteur nous explique le contexte. Le roi Agrippa rend visite à Festus, évêque Bérénice. Agrippa et Bérénice, ce sont le frère et la sœur du gouverneur précédent, Félix. C'est une affaire un peu de famille, si vous voulez. Mais c'est le roi Agrippa, c'est quelqu'un de très puissant, très important. Festus veut faire bonne impression. Il lui parle donc de la façon dont il fait très bien son travail. Il veut montrer qu'il fait très bien son travail, qu'il est un bon gouverneur, qu'il est une bonne personne pour remplacer Félix. Et Agrippa, le roi, va s'intéresser au cas de ce prisonnier, Paul, et il veut l'interroger. Alors, Festus se retrouve ainsi le lendemain, comme je l'ai dit tout à l'heure, entouré cette fois non pas seulement du roi et de sa sœur, qui, entre parenthèses, est aussi sa femme, mais ça, c'est le genre de choses qui se passaient à l'époque des Romains. En tout cas, il se retrouve pas seulement entouré de deux, mais cette fois en plus des notables et des tribuns et des gens haut placés de la ville, nous dit le texte. Agrippa et Bérénice sont venus d'ailleurs, nous dit le texte, avec beaucoup d'apparat, beaucoup de solennité dans cette circonstance. L'auteur est en train de dresser le décor, vous voyez, pour montrer que Festus est en train de subir une énorme pression. Il est sous pression à ce moment-là du texte. Il est sous la pression de son entourage, de la pression de ses collègues, de la pression de ses pairs, de la pression des personnalités puissantes de la ville. Il est sous la pression de tous ces gens dont l'opinion compte tellement pour lui. Alors Festus va se justifier. Pour moi, dit-il, verset 25, mais j'ai compris qu'il n'avait rien commis qui soit digne de mort. Il se couvre, vous voyez. Mais lui-même, en ayant appelé à l'empereur, j'ai jugé bon de le lui envoyer. J'ai rien de précis à écrire au souverain sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait comparer devant vous. Oui, il se dédouane, il se justifie sous la pression de son entourage, quitte à embellir son rapport. Pourquoi? Festus est prisonnier de la pression de son entourage. Je me souviens d'une anecdote qui s'est passée il y a quelques années à l'occasion d'une Coupe du Monde de rugby. La dernière Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande, c'était pas la dernière je crois, mais en tout cas celle qui s'est passée en Nouvelle-Zélande. Un beau matin, un joueur de l'équipe de France du rugby s'est présenté à l'entraînement, et c'était évident pour les journalistes qui pouvaient le voir, il s'est présenté ce beau matin avec un œil au beurre noir. Personne ne savait d'où provenait cet œil au beurre noir qu'avait ce joueur, c'était Mathieu Bastaro. Alors il a bien dû expliquer au journaliste qui l'interrogeait au sujet de cet œil au beurre noir, il a bien dû expliquer ce qui était arrivé. Alors il a dit qu'il s'était fait agresser par des gens dans la rue à Wellington le soir d'avant. Alors qu'en fait, on a découvert plus tard qu'il était simplement rentré ivre à son hôtel, qu'il avait trébuché et qu'il était tombé sur sa table de nuit. Alors c'est une histoire un peu drôle. C'est en tout cas un mensonge avéré, puisqu'il l'a avoué ensuite. Tout cela a tourné pratiquement à l'incident diplomatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a quelques années. Pourquoi Mathieu Bastaro n'a-t-il pas raconté la vérité tout de suite? Mais parce qu'il vivait sous une pression monumentale. La pression de son métier, la pression de son entourage, la pression de la presse, des médias, la pression du sport, la pression des supporters, la pression de la Fédération internationale de rugby, etc. Et donc vous voyez ce que ça veut dire être prisonnier de la pression de son entourage. Mathieu Bastaro, à ce moment-là de sa vie, s'est retrouvé devant un dilemme. C'était peut-être pas un dilemme existentiel, hein, mais c'était quand même un dilemme important. Est-ce qu'il valait mieux vivre avec la tension du mensonge, ou bien valait-il mieux vivre avec l'embarras de la vérité? Valait-il mieux vivre avec la tension de l'hypocrisie, la tension du faux-semblant? Ou bien valait-il mieux vivre avec l'embarras de la vérité, l'embarras de l'authenticité? Valait-il mieux porter le masque que tout le monde attendait qu'il porte? Ou bien valait-il mieux tomber le masque, quitte à décevoir les gens? Et donc Festus aussi, dans ce texte, est confronté à un dilemme similaire. Et nous aussi, nous sommes confrontés à ce dilemme et de façon permanente, cette pression à laquelle nous sommes soumis, comme Festus, cette pression que nous subissons de la part de nos pères, P-A-I-R-S, les gens de notre entourage, nos collègues, les gens influents dans notre vie. Est-ce que vous n'avez pas peur de décevoir vos meilleurs amis? Est-ce que vous n'avez pas peur de dire à vos collègues le lundi matin ce que vous avez fait le dimanche après-midi entre 18h30, entre 17h et 18h30? Est-ce que vous n'avez pas peur de dire aux gens que vous fréquentez au quotidien que vous êtes chrétien, que vous allez à l'église, que vous croyez en Jésus, qu'il est ressuscité des morts, qu'il va revenir, qu'il va juger les vivants et les morts, que les morts vont ressusciter? Est-ce que vous n'avez pas peur? Moi j'ai peur. Enfin franchement, je vous le dis, on vit sous cette pression, hein. Est-ce qu'il vous est difficile, même avec d'autres chrétiens, d'avouer vos faiblesses, de parler de vos luttes intérieures, de demander pardon, de reconnaître vos erreurs? C'est dur, c'est parce qu'on vit sous la même pression. Nous avons peur de perdre la face. Nous sommes prisonniers de la pression et des attentes que placent sur nous, malgré eux, hein, les gens qui nous entourent. Mais il y a un remède, on a vu dans ce texte. Un symptôme, ensuite une cause ou une explication. Maintenant, heureusement, il y a un remède. Et il y a des indices dans le texte qui nous montrent effectivement quel est le problème fondamental de Festus. Et le problème fondamental de Festus, c'est le problème de son allégeance, de ce qui constitue l'objet de son allégeance, de ce en quoi il a confiance, de ce vers quoi ses espoirs sont portés. Alors à trois reprises dans ce texte, Festus va employer des termes très particuliers pour parler de César, versets 21, 25 et 26. Alors ces termes sont très particuliers, notamment en grec, dans la langue originale du texte, parce que ces termes expriment normalement une vénération religieuse. Une vénération religieuse. Ce sont des termes qui sont traduits ici par empereur et par souverain, des termes qu'on emploierait normalement pour parler de Dieu, ou pour parler à Dieu. Un peu comme nous le faisons chaque dimanche, Seigneur, toi qui es souverain, toi qui règnes, toi le roi, toi le maître. Des termes qui sont normalement réservé à un culte religieux. Et donc on voit bien, par ces indices, quel est l'objet de l'allégeance de Festus. C'est César l'objet de l'allégeance de Festus. Et à travers César, Festus est soumis en quelque sorte à toute la société romaine, toute la culture romaine et toute la hiérarchie romaine. Festus vit sous la tyrannie, donc, on l'a dit, de l'impression qu'il donne à son entourage, il est prisonnier de la pression et des attentes de son entourage. Pourquoi? Parce que son entourage représente l'objet de son allégeance. Son entourage à Festus représente son Dieu, pour le dire clairement. César, l'empereur, le souverain et tout ce qu'il représente dans cette pyramide de la société de la culture romaine, voilà ce que Festus adore. Voilà ce à quoi Festus rend un culte. Ce qui fait l'objet de son allégeance. Et l'auteur, je pense, nous fait remarquer cela, peut-être de manière indirecte, pour que nous, à notre tour, nous nous posions aussi la question de ce qui constitue pour nous l'objet suprême de notre allégeance. Qu'est-ce qui constitue pour nous notre Dieu? Pas en théorie, mais dans les faits, en pratique. Qu'est-ce qui est Dieu pour nous? Dans le texte, l'objet de l'allégeance de Festus à un rival. Et ce rival est mentionné par Festus lui-même au verset 19, avec d'ailleurs tout ce qui constitue la suprématie de ce rival sur tous les dieux, sur toutes les idoles et sur tous les objets de vénération imaginables. Ce rival, c'est Jésus. Festus le dit, verset 19. Il parle, ils avaient des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. Alors ça, si c'est vrai, ça, c'est du rival pour César, vous voyez ce que je veux dire? Parce que César, peut-être à ce moment-là, il n'est pas mort. Mais aucun empereur qui l'a précédé n'est mort pour ensuite ressusciter le troisième jour. Mais si Jésus est mort et comme le dit Paul, il est vraiment redevenu vivant, alors ça, c'est du costaud. Ça, c'est de la concurrence pour l'empereur romain, vous voyez? pourquoi Jésus est-il digne, par-dessus tout le reste, digne de notre vénération? Eh bien parce qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Le remède pour Festus, changer de Dieu. Changer de Dieu. Laissez tomber ces dieux impressionnants peut-être, intimidants peut-être, mais faillibles et éphémères. Laissez tomber les Césars. Laissez tomber la hiérarchie romaine. Laissez tomber ces idoles qui ne font rien pour lui sinon le tyranniser et recevoir à la place, dans sa vie, le règne du Dieu bienveillant, le règne de Jésus-Christ qui, loin de le tyranniser, a bien plutôt pris sur lui, à la croix, le poids des fautes de ses ennemis, pour offrir à ses ennemis un pardon libérateur, pour offrir à ses ennemis le soulagement de leurs fautes, de leurs faiblesses, de leurs péchés. Vous voyez, c'est à cela qu'on voit que le règne de Jésus, ce n'est pas un règne qui tyrannise, ce n'est pas le règne d'un dictateur, mais c'est le règne d'un roi bienveillant. On le sait que Jésus n'est pas un tyran, précisément parce qu'il est mort pour ses ennemis, pour les ennemis que nous étions à ses yeux. Il est mort pour nous. Et si un roi meurt pour vous, est-ce que vous pensez qu'ensuite, lorsque vous serez son sujet, il va vous tyranniser? Est-ce qu'il est mort pour vous pour ensuite vous faire du mal? Bien sûr que non. Un jour, je me suis présenté à un entretien d'embauche pour un poste dans une entreprise qui travaille à l'aéroport de Lyon. Alors, c'était une des premières fois, une des toutes premières fois, j'étais bien plus jeune qu'aujourd'hui. C'est difficile à imaginer, je le sais. C'était une des premières fois que je postulais pour un emploi sur une longue durée. Et j'avais vraiment besoin d'argent, il fallait que j'achète une bague de fiançailles à Suzanne, et elle a des goûts de luxe, alors bon, il fallait bien que... Et donc, j'étais pas encore marié, mais je commençais à être de plus en plus indépendant, mais bon, j'étais pas encore très sûr de moi. Et j'allais avoir un tête-à-tête avec un cadre haut placé dans l'entreprise. La première fois que ça m'arrivait. Pourtant, je me suis présenté à cet entretien d'embauche, calme, tranquille, pas du tout stressé, pas du tout inquiet. Mais pourquoi donc? C'est bizarre. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le directeur du service pour lequel je me présentais, donc le patron du gars avec qui j'allais avoir l'entretien d'embauche, le patron de ce cadre, le directeur du service pour lequel je me présentais était un ami de la famille. Et qu'il m'avait déjà dit avant que ce serait bon. D'accord? Donc la personne en face a beau être imposante, si on est ami avec son patron, ça change tout, n'est-ce pas? Si on est ami avec le patron et que le patron a déjà dit que ce serait bon, alors on n'est plus du tout sous la tyrannie, n'est-ce pas, de l'impression qu'on est censé faire aux autres. Notamment dans ce cadre de l'entretien d'embauche, la tyrannie de la bonne impression que je devais absolument faire pour obtenir le poste. Non, on n'est plus sous cette tyrannie. On est libre alors d'être soi-même, enfin, ou presque, on est libre de cette peur de faire des gaffes, de dire un truc qu'on n'aurait pas dû dire, ou d'oublier de dire un truc qu'on aurait dû dire. On ne craint pas alors de se montrer authentique. N'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez quoi? Lorsqu'on se confie en Jésus-Christ, lorsqu'on place sa confiance en lui, lorsqu'on l'aime en retour de ce qu'il a fait pour nous, alors on devient l'ami du patron des patrons, du roi des rois, du seigneur des seigneurs, de l'empereur des empereurs, du César des Césars. Ce patron nous connaît mieux que quiconque, alors ça peut nous faire peur peut-être, c'est terrible, on ne peut rien lui cacher, il connaît tous nos défauts, il connaît tous les recoins secrets et puants de notre être. Mais justement, c'est un patron bienveillant. C'est un patron compatissant, c'est un patron qui nous aime, et comment il nous aime? Jésus nous aime tant, je l'ai dit, il nous aime tant qu'il a pris sur lui le poids de nos péchés pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec lui-même, pour nous libérer du fardeau de nos fautes, de nos défauts, de nos manquements, de nos faiblesses, et pour nous dire « Alex, c'est bon maintenant, il n'y a plus de problème, tu peux être toi-même, j'ai pris sur moi, j'ai payé pour tes défauts. J'ai payé pour tes erreurs, j'ai pris sur moi tes péchés, Alex. t'as plus besoin de soigner ton image aux yeux des autres, parce qu'aux yeux de Dieu, tu as une image parfaite. Tu as une image parfaite aux yeux de la personne pour qui ça compte le plus. La personne qui compte le plus dans l'univers, tu as une image parfaite aux yeux de Dieu parce que tu es recouvert de mon image, dit Jésus. T'as pas besoin de gagner la faveur de Dieu. T'as pas besoin de mériter sa faveur parce que moi je l'ai mérité à ta place. Et tu es recouvert de mes mérites. Tu es recouvert de ma bonne réputation. Tu es recouvert de ma beauté. Tu es recouvert de mon assurance, tu es recouvert de mes compétences, tu es recouvert de ma justice, tu es recouvert de mes vêtements. Quand Dieu te regarde, c'est moi qui le vois. Tu peux rien y ajouter, tu es libre maintenant, libre de cette tyrannie. Si vous vous confiez en Jésus, vous devenez l'ami du patron suprême et ce patron est content de vous. Il est content de vous. Vous lui plaisez. Si vous confiez en Jésus, Dieu vous déclare juste. Et il n'y a plus aucune raison de vivre sous la tyrannie de l'impression que vous donnez à votre entourage. Parce que le patron des patrons, le patron de votre entourage, celui à qui tout le monde devra rendre des comptes, lui, il a déjà dit que ce sera bon. Ce sera bon. C'est déjà bon. Il est content de vous. Il vous prend. Vous lui appartenez. Alors vous comprenez ce que je suis en train de dire là, et l'importance de ce que je suis en train de dire. En introduction, on parlait de ce fameux pouvoir du conformisme, cette tendance que nous avons tous à craindre d'être différents de notre entourage, à craindre le regard des autres, à redouter leur jugement. Et ce texte nous montre, je pense, à travers le mauvais exemple, le contre-exemple de Festus, il nous montre ce texte ce que c'est que ce syndrome donc, qui se manifeste, on a parlé du symptôme, hein, qui se manifeste par un désir de soigner son image devant les autres et par la crainte de les décevoir, qui s'explique ensuite, on a parlé de la cause, qui s'explique ensuite par la pression que nous subissons de la part de nos pères et des gens dont l'opinion compte pour nous, mais qui se guérit enfin, on a parlé du remède, n'est-ce pas, en troisième lieu, qui se guérit enfin par un changement d'allégeance. Plutôt que de vénérer son cercle d'amis, plutôt que de vénérer un certain confort, un certain standing, plutôt que de vénérer un certain mode de pensée, plutôt que de vénérer un certain style particulier ou autre chose de tyrannique, comme l'argent ou autre chose encore, nous devons reconnaître en Jésus l'objet suprême de toute vénération, parce qu'il est mort à notre place à la croix, mais le troisième jour, il est ressuscité. Il est monté au ciel et Dieu a tout mis sous ses pieds. Il règne sur la création tout entière. Il a existé dans le monde, dans l'histoire, beaucoup d'autres objets de vénération quasi interplanétaires. Hein? Elvis Presley, Jim Morrison, Gandhi, Michael Jackson, Steve Jobs, la princesse Diana dont nous commémorons aujourd'hui même les 17 ans de la mort à Paris, n'est-ce pas, le 31 août 1997. Tous ces gens-là, objets de vénération de milliers, voire de millions de personnes, tous ceux-là sont morts. Et moi, j'ai bien suivi les infos, mais le troisième jour, ils ne sont pas ressuscités. Ils sont encore morts aujourd'hui. Et Jésus, le troisième jour, est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est le patron des patrons, le juge des juges. Tout le monde devra lui rendre des comptes. Si vous vous confiez en lui, mes amis, si vous vous confiez en lui, si vous placez en lui votre espoir, si vous l'aimez en retour de ce qu'il a fait, si vous jetez vos armes à ses pieds, alors il vous accueille auprès de lui. Et c'est pas pour vous faire du mal, hein, c'est pour vous pardonner, c'est pour vous couvrir de la justice qu'il a acquise pour vous au prix de sa vie qu'il a offerte sur la croix, et alors vous devenez libre, réellement libre, vis-à-vis de tout ce qui vous tyrannisait jusqu'à présent. Parce que Jésus vous aime, le patron des patrons est au-dessus de tout, et il vous aime, d'un amour éternel, un amour indéfectible. D'accord ? C'est à ça qu'il faut penser, lorsqu'on a peur de perdre la face devant les autres. Lorsque nous nous sentons prisonniers de la pression de notre entourage, lorsque nous sentons prisonniers des attentes de notre entourage, de l'image que nous donnons, et peut-être que c'est votre cas en tant que chrétien, Et peut-être que c'est votre cas en tant que non-chrétien. Et peut-être que c'est exactement cela qui vous empêche de devenir un chrétien. Vous avez peur de perdre la face. Vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous. Mes amis, le patron des patrons, il règne. Il est prêt à vous accueillir, à vous aimer, à vous pardonner, à vous libérer. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de votre entourage. Regardez le texte de nouveau. Qui est prisonnier dans cette histoire? Qui est prisonnier? C'est Paul le prisonnier? Ou bien c'est Festus, en fin de compte, le prisonnier? Festus qui vit sous la tyrannie de ce que son entourage pense de lui. Mais Paul, lui, il vit dans la conscience d'être l'ami intime du Messie exalté, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, dont il sent la main droite posée sur son épaule et dont il entend la voix qui lui dit, pour reprendre les paroles de l'introduction au livre de l'Apocalypse, qui lui dit « Sois sans crainte ». Et peut-être que c'est ça que Dieu veut vous dire encore aujourd'hui. « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, dit Jésus, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. » Amen.